7h18 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec Thierry Garcin et Éric Laurent. Aujourd'hui, le Niger, Thierry, avec la difficile reprise annoncée des négociations internes au Niger, le poids de l'environnement régional.
Voilà, bonjour Marc Blanchet, je voulais juste rappeler qu'effectivement cette reprise a été annoncée, puis elle vient d'être reportée. Alors l'enchaînement des faits est intéressant à examiner. Le président nigérien Mamadou Tandja avait dissous le Parlement et la Cour constitutionnelle. Au mois d'août dernier, il avait organisé un référendum constitutionnel qui lui permet de faire prolonger d'au moins 3 ans son deuxième quinquennat, puisqu'il est à la tête du pays depuis donc très longtemps, une dizaine d'années sauf erreur. Et puis ce référendum donc avait permis cette prolongation, a été boycotté par l'opposition. Il faut rappeler également que le Niger a été suspendu de la CDAO, l'organisation régionale ouest-africaine, et que également l'Union européenne a suspendu son aide au développement. Il faut rappeler aussi d'un point de vue régional que la bande sahélo-sahélienne est divisée par la géographie, par le désert, par les distances, par les ethnies, par les civilisations arabo-musulmanes d'un côté, noires de l'autre, par les identités nationales peu établies et puis par la question Touareg qui finalement est récurrente. Sur l'ensemble de ce dossier, Antoine Glaser, donc rédacteur en chef de La Lettre du Continent.
Oui, ça, il faut savoir que le Niger, au niveau superficie, c'est quand même 2 fois la France pour une population de 13 millions d'habitants, donc à 80% du pays qui est en fait le Sahara et le désert. C'est là où sont installés un certain nombre de rebelles Touareg et également des partisans de Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et c'est vrai que c'est totalement incontrôlable malgré les efforts en particulier des Américains et des Français dans toute la zone sahélo-sahélienne. En même temps, c'est vrai que le Niger qui était un des pays qui est en fait l'un des plus pauvres du monde. Et en fait, depuis que les Chinois se sont intéressés à son uranium, qui était jusqu'à présent uniquement aux mains du groupe Areva, qui était avant la Kogema. Si vous voulez, le Niger est extrêmement stratégique et important, en particulier pour l'uranium militaire français. Et c'est vrai que Areva, jusqu'à l'arrivée des Chinois, il y a 5 ans, était habitué à fixer un peu son prix comme ça avec le Niger. En compensation, le Niger bénéficiait d'une aide française substantielle, c'est un grand mot, mais pour un petit pays, c'est la France est le premier partenaire du Niger. L'arrivée des Chinois a totalement changé la donne parce que Areva a été obligé finalement de passer à la caisse, de soutenir à fond le président Mamadou Tandja qui s'est changé son mandat pour se maintenir au pouvoir 3 ans de plus. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut comprendre que le Niger possède les deuxièmes réserves d'uranium du monde, derrière le Canada.
Et alors, est-ce qu'à votre avis, cette situation aujourd'hui stratégique a modifié, je veux dire, vraiment en profondeur, la perception qu'ont les dirigeants nigérians de leur rôle et de leur relation avec la France ?
Absolument, on a vu, c'est des petits pays comme le Centrafrique, il y a également de l'uranium, et le Niger, qui étaient les pays qui ne pouvaient absolument pas résister aux diktats français dans le temps. C'est vrai que maintenant, à partir du moment où ces pays africains ont une alternance, en particulier avec la Chine, mais aussi avec la Corée, vous savez que Areva, qui vient finalement de se faire souffler d'importants contrats par des Coréens à Abu Dhabi, a fait rentrer ces mêmes Coréens de KEPCO dans son gisement d'uranium d'Imouraren au mois de décembre. Donc c'est pour dire que c'est des petits pays comme le Niger se trouvent dans une partie géostratégique pour l'accès à des matières comme l'uranium. Et c'est vrai que ça change totalement la donne pour un pays comme le Niger.
Comment peut-on qualifier le régime du président Tandja ?
Vous savez, Mamadou Tandja, avant, ça, il ressemblait à un grand-papa qui était prêt à prendre sa retraite, un ancien colonel de l'armée nigérienne qui a été élu en 1999 et 2004. Et finalement, l'uranium, avec la présence des Chinois, il veut une raffinerie, il y a aussi du pétrole. On a l'impression que ça l'a rajeuni de 10 ans. Il veut absolument se maintenir au pouvoir. Et ce régime devient un régime totalement autoritaire, alors qu'avant, c'était un régime semi-présidentiel.
Alors, il y a évidemment des interrogations sur justement la fragilité de ces pays en termes, effectivement, en termes sécuritaires, avec notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire notamment, bien sûr, le problème Touareg au Niger, et puis, en effet, donc, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement opérationnelle, d'ailleurs, hein, je veux dire, en ce moment.
Non, mais si vous voulez, il faut comprendre, on dit toujours, évidemment, c'est pas en termes réellement de kidnapping, d'intervention armée, ça paraît, on a l'impression toujours que c'est épisodique. Là, vous avez un Français qui a été enlevé au nord du Mali, justement à la frontière du Niger. Mais en termes économiques, c'est un poids énorme. Par exemple, tout le tourisme dans toute la région sahélo-saharienne, de la Mauritanie au Niger et au Tchad, n'existe plus. Il ne faut pas oublier quand même que le Paris-Dakar a été annulé en Mauritanie. Maintenant, ça se passe en Amérique du Sud. Donc, l'impact socio-économique sur ces pays de l'ACMI, de l'Al-Qaïda, du Maghreb islamique, est extrêmement et plus important que simplement en termes opérationnels. Et d'autre part, malgré les efforts de l'Algérie en particulier, c'est vrai, de sortes d'opérations comme ça croisées entre services de renseignement américains, français et algériens, et même la Libye qui donne aussi un coup de main de son côté, puisque le colonel Kadhafi finalement a toujours lutté contre les mouvements islamistes radicaux pour ne pas se faire renverser dans son propre pays. C'est vrai que malgré toutes ces opérations et ces petits trucs de renseignement, c'est vrai que c'est quand même une incapacité à contrôler des régions totalement inaccessibles.
Est-ce qu'il y a de la part des gouvernements donc de cette zone, je veux dire, une coordination, je veux dire, dans cette lutte?
Très franchement, non. Très franchement, chacun est chez soi. Il n'y a absolument pas ni de coordination.